Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Jean-Marie Collin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé au GRIP. Le GRIP, c'est un groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Et vous êtes expert porte-parole de ICANN France, qui est le relais national de la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. Vous travaillez sur des questions de défense et de sécurité internationale avec une expertise plus particulière sur les thématiques du contrôle des armements, de la dissuasion nucléaire, de la non-prolifération et du désarmement nucléaire, ce qui vous a permis de participer à l'ensemble du processus de 2010 à 2017, le processus dit de l'initiative humanitaire et de négociation du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Vous êtes auteur de nombreux articles et livres, dont la coécriture de L'illusion nucléaire, la face cachée de la bombe atomique, publiée en 2018. Et vous êtes aujourd'hui l'invité du podcast de So Sweet Planet pour nous présenter ICANN et son action.
Merci beaucoup. Alors ICANN signifie donc la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. ICANN est né en 2007 d'un constat par des médecins australiens. Le constat était que ces médecins avaient reçu le prix Nobel de la paix en 1985 et se sont dit finalement, nous ne sommes pas parvenus à l'élimination complète des armes nucléaires depuis 1985. Où est-ce que nous avons échoué et quels sont les points que nous devons absolument retravailler? Et après quelques mois de tergiversation et de réflexion, ils se sont dit finalement, il y a un aspect sur lequel on n'a jamais véritablement travaillé avec la communauté internationale, c'est les armes nucléaires, ce sont avant tout des armes. Des armes qui sont prêtes à être utilisées et qui peuvent donc créer des conséquences humanitaires catastrophiques, des conséquences environnementales extrêmement importantes. Et c'est donc sur cet angle d'attaque, sur cet angle-là, que l'on doit travailler. D'où la création d'ICANN en mars 2007 à Vienne. Donc ICANN maintenant a une douzaine d'années, a eu le grand honneur de recevoir le prix Nobel de la paix il y a 2 ans, en décembre 2017. Alors c'est un prix Nobel qui nous a été délivré pour avoir redonné conscience à la communauté internationale de ce danger des armes nucléaires et pour avoir mis en œuvre et participé très fortement à la création du traité d'interdiction des armes nucléaires, un traité qui a été donc négocié et adopté à l'ONU et qui devrait rentrer en vigueur en 2020. Voilà. Donc ICANN est une véritable campagne internationale qui regroupe également à peu près 500 ONG à travers le monde, dans une centaine d'États, que ça soit quasiment l'ensemble de la planète est affecté par ICANN, j'ai envie de dire, et donc je représente avec d'autres personnes la branche en France.
Et concrètement, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a, comme d'autres ONG, des groupes de bénévoles qui participent à sensibiliser les citoyens par des actions médiatiques ou...
Oui, tout à fait. On a un certain nombre de bénévoles dans les différentes branches nationales à travers le monde. En France, on a une petite cinquantaine d'organisations derrière cette campagne ICANN France, comme par exemple le Mouvement de la Paix, des organisations très pacifistes qui s'appellent Abolition des armes nucléaires, comme ATTAC également. Et puis, on a des personnes individuelles qui décident de nous aider, de nous soutenir, des étudiants, par exemple, qui s'impliquent à nos côtés pour faire pression auprès des banques, par exemple, sur les questions de désinvestissement, pour nous aider à des tâches purement administratives aussi, ou pour nous aider à organiser des grands événements nationaux et internationaux, comme on devrait en organiser un en fin d'année, normalement.
Alors, le 7 juillet 2017, Hélène White Gomez, présidente de la Conférence des Nations Unies pour la négociation d'un instrument juridiquement contraignant, ce qui est important, hein, oui. Parce qu'on voit que les traités qui ne le sont pas juridiquement contraignants sont rarement appliqués, visant à interdire les armes nucléaires, a annoncé l'adoption par 122 États donc, du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, ce fameux TIAN. Qu'est-ce que le TIAN? Parce que j'ai vu que c'était la conséquence du non-respect par les États Vous pouvez nous expliquer?
Alors, en fait, si vous voulez...
Parce qu'il y en a eu d'autres. Il y en a
oui,
d'autres.
Oui, il y a d'autres traités. Chaque traité est extrêmement important. Chacun se complète. Et c'est par la mise en œuvre de chacun de ces traités qu'on arrivera à une interdiction, une élimination des armes nucléaires. Il y a une sécurité sur le fait que de nouveaux États n'arriveront pas à acquérir des armes nucléaires. On a le traité le plus fondamental qui s'appelle le TNP, le traité de non-prolifération nucléaire, celui dont on entend le plus souvent parler dans les médias, qui est vraiment le traité qui a limité le nombre d'États à avoir des armes nucléaires, qui a été créé en 1968, donc il y a une petite cinquantaine d'années aujourd'hui. Le problème de ce traité majeur, c'est qu'il manquait certaines choses. C'est ce qu'on a appelé le vide juridique. Et parmi ces choses qui manquaient, il y en avait une qui était élémentaire. C'est le seul traité, en fait, les armes nucléaires, ce sont les seules armes qui n'avaient pas un instrument d'interdiction global et complet. Nous avons un traité qui interdit globalement les armes biologiques et les armes chimiques. Dans d'autres types d'armes dites qui affectent les populations, par exemple les mines antipersonnelles ou les armes à sous-munitions, nous avons un traité pareil d'interdiction. Mais nous n'avions pas encore, sur l'ensemble des normes juridiques, un traité d'interdiction des armes nucléaires. Et donc ce TIAN, donc pour traité d'interdiction des armes nucléaires, vient compléter ce vide juridique, vient renforcer le traité de non-prolifération, justement pour avancer et pour assurer la non-prolifération, le désarmement et l'élimination des armes nucléaires.
Alors j'ai téléchargé, parce qu'on peut télécharger sur votre site le...
ICANN France.
De ICANN France, voilà, le gros rapport que vous avez donc écrit pour nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Et en introduction du rapport sur ce traité, vous écrivez « La première résolution votée aux Nations Unies le 24 janvier 1946 avait pour objectif de créer une commission chargée d'étudier les problèmes soulevés par la découverte de l'énergie atomique, avec un mandat en particulier qui devait proposer des recommandations pour éliminer des armements nationaux, les armes atomiques et toutes les autres armes importantes permettant des destructions massives. » Et en lisant ça, moi, je me suis demandé, est-ce que ce travail, en fait, de 1946 n'a pas été concluant, puisqu'on ne peut pas dire qu'on en est arrivé à l'élimination, ou est-ce qu'on serait dans une situation bien pire si ça n'avait pas eu lieu, avec plus d'États en possession d'armes nucléaires, s'il n'y avait pas eu cette résolution en 1946?
Alors, ça veut dire qu'en 1946, tout de suite, les diplomates ont eu conscience du danger des armes nucléaires. On est 5-6 mois après Hiroshima et Nagasaki. Tous ces gens ont rapidement pris conscience du danger de l'arme nucléaire, de sa capacité de destruction massive. Et par conséquent, un certain nombre de diplomates à l'ONU se sont dit « Essayons d'engager des pourparlers avec les États-Unis, qui étaient les seuls en 1946 à disposer d'armes nucléaires. » Pour tout un tas de raisons diplomatiques et de puissance, ça a échoué. D'où ce qu'on a appelé la course aux armements jusqu'aux environs de la chute du mur de Berlin, les années 90, la guerre froide, etc. Aujourd'hui, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que l'état de la planète nucléaire est plus ou moins constitué de un peu moins de 14 000 armes nucléaires dans le monde. La France en possède 300. Mais les États qui possèdent ces armes nucléaires, donc je vais les citer, ce sera sans doute plus simple, les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne, et puis on rajoute l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord et Israël. En fait, tous ces États sont dans un processus de modernisation et de renouvellement de leurs arsenaux nucléaires. Tous, aujourd'hui, ne réalisent pas une politique pour aller dans l'esprit et dans la bonne foi vers le désarmement nucléaire. Donc, on a moins d'armes nucléaires que pendant la guerre froide, où on avait un pic de 70 000, par exemple, au milieu des années 80, puisque, comme je l'ai indiqué, on est à 14 000. Mais on a une volonté politique et militaire de conserver ces arsenaux sur le prochain siècle, avec évidemment des dépenses budgétaires extrêmement importantes. Et c'est pour ça que c'était important que ce traité d'interdiction arrive enfin, puisque bien souvent, avant de pouvoir éliminer quelque chose, vous n'obtenez cette élimination que si vous avez conscience que celle-ci est interdite. Si vous n'avez pas cette conscience, si vous n'avez pas cet instrument qui vous l'interdit, une règle qui vous interdit, vous continuez à avoir cette chose, quelle qu'elle soit. Et à partir du moment où cette interdiction, cette norme existe, vous avez obligatoirement un changement de conscience et vous avez obligatoirement une pression internationale qui va s'installer à différents niveaux. Et qui a...
Vous voulez dire qu'il y a d'abord un effet psychologique, en
tout
fait.
Tout à fait, tout à fait. Et qui a donc pour volonté de rallier ces États qui possèdent ces armes nucléaires à l'intérieur de ce traité pour avancer vers le désarmement. Voilà, donc c'est la mise en œuvre du traité, la mise en œuvre de l'interdiction qui doit permettre d'enclencher véritablement la diminution puis l'élimination des arsenaux nucléaires.
Combien de temps et combien de personnes ont été nécessaires pour faire adopter ce traité? Il faut travailler en amont pendant combien d'années?
Alors, tout dépend comment on peut le dire. Si j'étais diplomate français, comme un diplomate français n'est pas en faveur de ce traité d'interdiction, je dirais qu'il a suffi de simplement quelques semaines, histoire de dénigrer ce traité. Si je regarde un peu plus loin, je dirais que ça fait près de 10 ans que les États travaillent ou réfléchissent en fait sur potentiellement un traité juridiquement contraignant qui a donné lieu à des négociations pendant près de 6 semaines. Et si je observe encore d'un peu plus loin, finalement, depuis janvier 1946, des personnes réfléchissent à l'interdiction et à l'élimination des armes nucléaires et essayent de mettre en œuvre ce processus et ce traité. Donc, il a fallu plusieurs X personnes. Et en tout cas, une certitude, 122 États ont travaillé de façon extrêmement importante avec leurs équipes de diplomates et de juristes internationaux pour obtenir le meilleur des traités le 7 juillet 2017. Et je peux vous dire que ce fut un véritable clappement des mains et cri de hurrah dans cette salle de l'ONU, puisque c'était loin d'être gagné d'avance et qu'enfin, on a une norme qui interdit les armes nucléaires.
Et à l'heure actuelle, donc, combien de pays ont signé, combien ont refusé et combien sont en...
Alors, sur les 122 États qui ont voté ce traité, maintenant le traité, donc, c'est ce qu'on appelle dans un processus d'entrée en vigueur, il y a déjà 70 États qui l'ont signé, 23 qui l'ont ratifié, il en manque 22 pour obtenir le chiffre critique qui est 50, qui permet, selon la norme de ce traité, une entrée en vigueur, c'est-à-dire qu'il y aura une vraie norme internationale.
Entrer en vigueur pour ceux qui l'ont signé.
Pour ceux qui l'ont signé, mais vous savez, un traité, même pour ceux qui l'ont signé ou pour ceux qui ne l'ont pas signé, crée un précédent, crée une sorte de jurisprudence, crée une pression internationale. Et c'est là-dessus aussi qu'on va véritablement travailler. Pourquoi la France restera en dehors de la juridiction internationale? On pourrait peut-être le comprendre pour la Corée du Nord, mais pour la France, pays des droits de l'homme et du droit international humanitaire, ça semble véritablement bizarre. Donc on est dans un véritable processus d'entrée en vigueur pour 2020. Certains États sont en pleine discussion de ratification, comme l'Algérie par exemple, comme le Kazakhstan, comme l'Irlande notamment.
Et dans les pays que vous avez cités tout à l'heure qui ont le plus d'armes nucléaires, parce qu'en fait on a longtemps dit l'arme nucléaire, mais maintenant c'est des arsenaux d'armes nucléaires. Est-ce qu'il y en a au moins un qui a signé ou aucun?
Non, aucun de ces États n'a signé, aucun de ces États n'a participé à ces négociations, ce qui est aussi d'une certaine façon un petit peu bizarre. Finalement, chacun pointe leurs missiles les uns sur les autres, donc crée une menace. Ils ont une potentielle solution pour venir éliminer cette menace et ne participent pas à ces différentes interdictions. Donc, c'est pour le moment, voilà, ces différents États refusent ce traité d'interdiction des armes nucléaires. On est en négociation, on rencontre des parlementaires, c'est principalement mon travail pour justement expliquer l'intérêt qu'aurait la diplomatie française à participer à la première de ces réunions. Donc voilà, on est dans un processus aujourd'hui d'échange d'informations et de pression juridico-diplomatique.
Oui. Alors, de quels moyens disposez-vous pour inciter les pays qui ne veulent pas signer? On a plutôt l'impression qu'il y a une course dans un sens de croissance de ces arsenaux.
Oui.
Vous, de quels moyens vous disposez pour espérer les convaincre?
Alors, de quels moyens on dispose? Tout d'abord, il faut voir que des États comme la France ont signé des engagements à aller à l'élimination et au désarmement nucléaire. C'est le fameux traité de non-prolifération nucléaire que j'ai cité tout à l'heure. Donc, la France est engagée juridiquement à aller dans ce sens-là. Donc on demande aux parlementaires qui ont fait signer et ratifier par le biais de loi ce traité de respecter les engagements. Donc on les met devant le fait accompli de dire vous avez engagé des promesses, tenez-les, sinon c'est bien la face du monde finalement que la voix de la France ne portera plus.
Est-ce qu'il y a quelque chose de contraignant justement par rapport à ces engagements-là?
Dans le cadre de ce traité, non, mais quand on dit contraignant dans le cadre d'un traité comme le traité d'interdiction, c'est contraignant dans le fait qu'il y a des obligations de désarmement, mais il n'y a pas de sanctions, si c'est ça sur le plan du contraignant.
Contraindre à respecter engagements.
Le seul organe à travers le monde qui peut contraindre à respecter des engagements, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU. Et le Conseil de sécurité de l'ONU, qui dispose de 5 États qui ont un droit de veto, ce sont aussi les 5 qui disposent de l'arme nucléaire. Donc, évidemment, ils ne vont pas s'astreindre une obligation et donc une sanction. Donc, de ce côté-là, il faut reconnaître qu'on est bloqué. On les met devant leurs obligations, on les met aussi en face avec finalement leurs responsabilités politiques, diplomatiques, humanitaires, avec aussi les engagements qu'ils prennent à d'autres niveaux. Par exemple, est-il logique d'engager une protection de l'environnement et de la biodiversité et en même temps d'engager une politique qui peut venir détruire l'ensemble de cette biodiversité. Est-ce que c'est logique? Voilà. Sur un plan, par exemple, financier, est-ce qu'il est logique de mettre autant d'argent dans un système d'armes qui a pour finalité potentielle de détruire la planète? Est-ce que c'est le meilleur moyen de défense? Si on est aussi, on aborde sur les questions de défense, il faut une armée pour défendre un territoire, soit. Choisissons-lui le meilleur système d'armes. Est-ce que ce système d'armes est encore adapté aujourd'hui à la réalité des menaces que nous allons avoir dans les 50 ou 100 prochaines années? On a eu des épisodes où la France a changé totalement de système d'armes, par exemple avant la première ou pendant la première guerre mondiale, parce qu'elle s'est rendue compte que les systèmes d'armes acquis à la fin du 18e ou 19e siècle n'avaient plus lieu d'être. Mais on pourrait peut-être aussi s'interroger.
C'est sûr qu'à l'époque des drones.
Voilà, des drones, mais aussi surtout de la problématique des cybermenaces, la problématique spatiale dans son ensemble, pose de réelles questions. Et surtout, on parle d'une arme de destruction massive. Et on ne peut pas être fier d'avoir comme système de protection une arme de destruction massive qui va venir tuer, puisqu'il n'y a pas d'autre mot, des grands-pères, des familles, des enfants, détruire des musées, détruire des œuvres d'art. Donc c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas baser sa défense sur ce type de système d'armes.
Lors des années qui ont précédé l'adoption de ce traité, est-ce que vous avez réussi à faire changer d'avis des États qui ne voulaient pas signer et qui finalement sont devenus signataires?
Vous savez, je pense que tous les États qui ont participé aux négociations avaient un but. Et un but, c'était d'arriver à un traité le 7 juillet 2017, d'arriver au meilleur document possible. Par exemple, la Suisse ou la Suède auraient voulu rajouter un certain nombre de choses, comme les Brésiliens. Ils ne sont pas parvenus, donc on est arrivé à ce qu'on appelle finalement un traité, c'est un compromis. Hein. On ne peut pas mettre tout le monde d'accord, ce n'est pas possible. Donc on prend le meilleur des compromis. Mais ces États se sont ralliés au fur et à mesure sur différents points. Nous avons un certain nombre d'États du Maghreb ou du Mashrek qui ont aussi participé à ces différentes négociations. Différents États aussi, que ce soit en Asie du Sud-Est, on peut penser à la Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande, qui ont aussi décidé de participer à ces négociations. Surtout parce qu'ils ont pris conscience qu'en cas de détonation nucléaire, quel que soit à travers la planète, ils en subiraient les conséquences. Et par conséquent, tous ces États aujourd'hui se sentent en insécurité parce que 9 États détiennent des armes nucléaires. Et parce que si jamais, pour répéter, cette détonation arrive, c'est leur population qui en subira des effets négatifs. Donc ils veulent bien mettre en sécurité leur population en éliminant ces arsenaux nucléaires.
Dans les pays sur lesquels il y a des controverses, qui sont accusés de travailler à la préparation d'armes nucléaires et où en fait on ne sait jamais trop, nous à notre niveau de simples citoyens, est-ce que ces accusations sont fondées ou pas? Quelles garanties on a? Que des pays, comment on sait qu'un pays est en train de préparer, de travailler à la préparation d'armes nucléaires?
Alors ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, on n'a aucun pays à travers le monde qui travaille ouvertement à acquérir un arsenal nucléaire. On a une agence internationale qui s'appelle l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est véritablement la garante, qui réalise des contrôles extrêmement importants à travers le monde, dans tous les États qui possèdent des infrastructures nucléaires civiles. Puisqu'il est vrai que quand vous disposez de centrales nucléaires, mais plus précisément de machines, de centrifugeuses, pour entendre un terme un peu technique, qui vous permettent d'avoir la matière première, l'uranium, un certain type d'uranium pour concevoir une arme nucléaire, l'AIEA est toujours là en train d'inspecter, de savoir, de connaître, de comprendre. Et comme vous l'avez indiqué, ce ne sont pas des choses que vous pouvez faire derrière votre garage. Donc c'est forcément des choses importantes qui se voient. Si je prends l'exemple de la Corée du Nord, la Corée du Nord a révélé qu'elle avait un arsenal nucléaire, en tout cas qu'elle savait créer une arme nucléaire en 2006, mais les grandes agences de renseignement comme l'AIEA se doutaient de ce travail depuis plus de 20 ans déjà. Donc c'était simplement l'aboutissement en 2006. L'Iran, qui aujourd'hui sur la scène internationale, est le pays le plus contrôlé au monde, et l'AIEA dit bien qu'aujourd'hui l'Iran respecte tous ses engagements à ne pas se doter d'armes nucléaires et à ne disposer de ce fameux uranium qu'à des fins purement pacifiques, éclairer notre électricité, voilà. Donc, et puis aussi, il faut voir un autre constat, c'est que l'écrasante majorité du monde n'a pas envie d'avoir d'armes nucléaires. Les Allemands auraient la capacité, s'ils le souhaitaient, comme les Hollandais, mais ils n'ont tout simplement pas envie d'avoir d'armes nucléaires. Ils n'en ont pas l'utilité au sens propre, ni les Japonais. Alors on pourrait me prétexter, c'est parce qu'ils sont protégés par d'autres États qui ont des armes nucléaires, mais aussi parce que leur opinion publique ne veut pas de ces armes nucléaires en tant que telles, que ce soit une arme nucléaire allemande ou hollandaise ou japonaise ou sud-africaine. Et d'ailleurs, l'Afrique du Sud a eu un arsenal nucléaire jusqu'en 1990 et a décidé de l'abandonner toute seule. Preuve que l'arme nucléaire n'est pas un système de défense véritablement adapté au monde et qu'il vaut mieux l'abandonner à un moment donné.
Les États, eux, ont donc des arguments techniques pour justifier leur refus d'adhérer à ce traité ou à un désengagement. Et moi, en fait, j'ai été assez étonnée en discutant, en parlant de ICAN, de constater qu'autour de moi, finalement, les gens ne sont pas autant que moi contre cette arme nucléaire. J'ai l'impression, d'une part, c'est une impression un peu floue, j'ai pas encore vraiment creusé, mais qu'il y a une méconnaissance des réelles menaces, parce que maintenant Hiroshima, Nagasaki, ça a impressionné beaucoup de monde, parce qu'on a vu les images dans les années qui ont suivi, mais aujourd'hui, dans les nouvelles générations, c'est beaucoup moins présent, à moins de regarder le documentaire qu'on n'a pas tellement envie de regarder, qui va passer un soir tard. Finalement, les gens ne se représentent pas très bien quelle est cette menace. Et souvent, j'entends parmi ces personnes revenir toujours le même argument pour défendre la position de la France de garder son arme nucléaire, qui est de dire oui, mais si nous, on se défait de cette arme, si on abandonne, on est vulnérable. Alors, on est vulnérable quand on voit tous les arsenaux qu'on a. Je ne sais pas si on est vraiment vulnérable. Et comme vous le dites, en plus, ce n'est pas forcément très adapté aujourd'hui par rapport aux nouvelles menaces et à la façon, par exemple, les attentats terroristes, l'arme nucléaire n'est d'aucune protection par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a comme argument, alors ?
Le premier argument, déjà, c'est de dire que malheureusement, l'information sur ce sujet est très faible. Et que comme l'information est très faible, on reste très souvent la population, et on peut le comprendre, sur certains présupposés ou grandes idées types. Du style, c'est grâce à la bombe qu'il y a eu la paix depuis 1945. C'est grâce à la bombe que la France siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Des choses qui sont totalement ridicules. Par exemple, l'ONU a été créée en 1945, la France siège au Conseil de sécurité depuis 1945 et a acquis la bombe nucléaire en 1960. Donc voilà, nul ne peut prouver que c'est grâce à l'arme nucléaire qu'il n'y a pas eu de guerre, parce qu'on ne peut pas refaire l'histoire comme une expérience scientifique. Et puis on peut peut-être présupposer aussi qu'il y a eu la paix, notamment en Europe, principalement à cause de la création de ce qu'on a appelé la communauté économique du charbon et de l'acier, de l'Union européenne, de la CEE, des accords culturels, multiculturels, etc., etc. Donc, le premier élément, c'est ce manque d'informations cruciales. La seconde question, c'est, je reviens sur ce que j'ai dit il y a quelques minutes, doit-on baser notre système de défense sur une arme de destruction massive ? Accepterait-on finalement de baser notre système de défense sur des armes chimiques ? Les gens diraient non, parce qu'on a ces images des armes chimiques, malheureusement, qui sont déroulées en Syrie ces dernières années. Comme étant quelque chose de vraiment répulsif et d'horrible. Et les armes nucléaires ont cette réalité. Alors c'est vrai que c'est des images en noir et blanc, c'est vrai que c'est des vieux films et ce n'est pas un film en 3D qui va bouger aujourd'hui, les armes nucléaires. La réalité, c'est ce que montre le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, c'est qu'en cas de détonation nucléaire, c'est l'ensemble de la planète qui en subirait les conséquences. C'est des problématiques extrêmement importantes en termes de population, de migration de population qui vont aller dans tous les sens. C'est des problématiques aussi en termes de famine. C'est près d'un milliard de personnes qui seraient affectées directement. Donc c'est comme laisser mourir ce milliard de personnes. Et puis surtout, ça veut dire qu'on n'a pas besoin aujourd'hui, face aux nouvelles menaces, le changement climatique par exemple, les attentats terroristes, alors c'est vrai que la bombe n'est pas faite pour contrer les attentats terroristes, mais c'est la première des menaces. On a certainement besoin de problèmes de systèmes de défense autres, sur le renseignement, sur le spatial, à différents niveaux. Mais l'arme nucléaire n'est définitivement pas une arme qui assure notre sécurité, bien au contraire.
Vous dites aussi dans ce rapport, cette future norme crée d'ores et déjà de nouveaux développements juridiques, par exemple sur le pacte international relatif aux droits civils et politiques, démontrant bel et bien que le droit est un processus transformateur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ?
Oui, le droit, c'est quelque chose qui vit, en fait. Et ce processus transformateur est une expression de Mme Myriam Delmas-Marty, une grande juriste. Et le droit est quelque chose qui vit. Le droit est quelque chose qui nous fait tousser, c'est-à-dire qu'au départ, on n'accepte pas trop. Et finalement, on demande du droit parce qu'on sait que le droit, c'est aussi quelque chose qui est là pour nous aider, nous protéger. On a besoin du droit pour, par exemple, avoir une réglementation quand vous conduisez votre voiture, pour protéger le piéton, mais aussi pour protéger le conducteur. Et on apprécie ce droit. Et c'est la même chose au niveau des armes nucléaires. Le Tian a créé cette nouvelle norme et on avait besoin d'avoir ce processus transformateur dans la norme du droit contre les armes nucléaires, d'avoir ce TNP, mais d'avoir aussi ce traité d'interdiction des armes nucléaires.
Depuis les bombes qui ont été lâchées sur Hiroshima et Nagasaki, les armes ont bien évolué, ces armes nucléaires. Quel serait l'impact d'une arme nucléaire utilisée aujourd'hui? Est-ce qu'on sait une bombe qui tomberait ou un ensemble de petites bombes selon les formes qu'elles ont pu prendre, qui tomberait aujourd'hui sur une grosse ville, quel serait l'impact, est-ce qu'on sait, en termes humanitaires?
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les armes aujourd'hui sont beaucoup plus puissantes que par le passé. C'est 20 fois plus puissant, par exemple, que les armes qui ont été lancées sur Hiroshima et Nagasaki. D'autre part, ce que l'on peut s'apercevoir, c'est qu'une arme qui viserait une grande ville, en prenant la ville de Lyon, par exemple, en France, Lyon est un nœud autoroutier, un nœud de communication, et aujourd'hui possède des installations pétrolières, des installations chimiques extrêmement importantes, a aussi un laboratoire de virus extrêmement important au centre de Lyon, est connecté à un certain nombre de centrales nucléaires autour. Donc ce n'est pas non seulement la destruction que l'arme va provoquer en soi, c'est aussi l'ensemble, l'enchaînement des cascades de destruction qui vont se réaliser à cause de cette première destruction massive. À aucun moment aujourd'hui, la plus petite des armes nucléaires, par exemple, n'atteint le niveau de puissance de la plus grosse des armes conventionnelles, si vous voulez. Il y a un gap, une différence extrêmement importante que l'on ne peut pas aujourd'hui rejoindre. C'est pour ça que les armes nucléaires, même quand aujourd'hui il y a une volonté de dire on va créer des armes nucléaires de petite puissance, ça n'existe pas. C'est une arme nucléaire, c'est une arme de destruction massive. Et ça va provoquer des dégâts extrêmement importants. Et c'est pour ça, encore une fois, que...
Et dans le temps,
bien évidemment.
Contrairement à d'autres armes,
sur l'humanitaire, sur l'environnement,
voilà,
et dans le temps.
Des années.
Oui, et pour preuve, les quelques survivants d'Hiroshima en subissent toujours les conséquences. Non seulement eux ont des problématiques d'ADN, de cancer, mais aussi les générations futures. C'est-à-dire que s'ils ont pu, par bonheur pour eux, avoir des enfants, ce qui n'a pas été tout le temps le cas, leurs enfants, voire leurs petits-enfants, sont affectés aussi par ces problématiques. Donc, c'est juste anormal de penser, puisque c'est ça la dissuasion, hein, c'est être prêt à utiliser une arme, donc c'est penser à détruire Moscou, avec l'ensemble des populations et des œuvres d'art, encore une fois, et des personnes qui s'y trouvent, et donc d'affecter, pour un temps illimité, ces personnes et cet environnement.
Le 17 mai 2019, la ville de Paris a décidé de rejoindre l'appel des villes de ICAN. De quoi s'agit-il ?
Alors l'appel des villes de ICAN, c'est quelque chose qui a été lancé encore une fois par nos amis australiens, notre branche australienne de ICAN, dans l'idée de dire finalement un maire est une personne qui est là pour assurer la sécurité de sa population. Elle lui assure une sécurité sanitaire, publique, éducative, elle lui assure une sécurité économique en faisant en sorte que la ville soit attractive pour qu'il y ait des emplois. Puis depuis quelques années aussi, elle bosse à un niveau, une sécurité environnementale, même si ce n'est pas forcément cette ville-là qui pollue le plus. En tout cas, elle essaye de faire dans sa mesure du possible de contribuer à une meilleure protection de l'environnement pour que ça ait un impact mondial. Et bien là, c'est le même état d'esprit, c'est-à-dire que les armes nucléaires sont faites pour viser des villes. Et donc, il est essentiel qu'un maire protège sa population. Et comment il peut le faire? Et bien, il peut le faire en signant cet appel des villes que ICAN a lancé, un appel qui est là pour dire qu'il soutient le traité d'interdiction des armes nucléaires et demande à son gouvernement de signer et de ratifier le traité d'interdiction des armes nucléaires. Alors aujourd'hui, on a donc, c'est vrai, en France, Paris. On a d'autres villes qui commencent à signer. Le nom de ces villes sera révélé le 7 juillet pour faire les 2 ans de l'anniversaire de l'adoption du traité d'interdiction des armes nucléaires. Et à travers le monde, on a de nombreuses capitales, que ce soit en Europe, par exemple, nous avons Oslo, nous avons Berne, nous avons Berlin, nous avons des grandes villes aussi à travers le monde. Nous avons Washington aussi, nous avons des villes, alors Sydney, Melbourne, par exemple, pour l'Australie. Mais voilà, il y a véritablement tout un tas de villes, une cinquantaine de villes à travers l'Europe et le monde qui se sont mobilisés pour demander à leur gouvernement de signer, de ratifier ce traité d'interdiction des armes nucléaires. Et ça fait partie de la pression qui est exercée par nos différents acteurs.
En plus de l'impact de leur utilisation ou des essais nucléaires, parce qu'il y a aussi l'impact des essais
bien
nucléaires,
sûr.
Pour la mise au point de ces armes, il y a un autre impact très important sur les vies humaines, c'est le budget qu'on leur octroie.
Oui.
Et qui pourrait être utilisé pour bien d'autres choses. Est-ce que vous pouvez nous... Parce que j'ai lu ces jours-ci sur votre site un chiffre, 748 milliards de dollars pour la production de systèmes d'armes nucléaires.
Alors, je n'ai plus tout à fait le chiffre en tête, mais c'est certainement le montant qui est alloué actuellement par les banques auprès des entreprises pour fabriquer des systèmes d'armes nucléaires.
Ah voilà, on c'est le soutien des banques, ce que vous travaillez aussi par rapport au placement en fait.
Voilà, exactement, on travaille sur le désinvestissement bancaire. Alors tout d'abord, si on regarde le premier chiffre qui nous concerne tous, restons sur la France, mais qui concerne aussi un Américain ou un Russe finalement, puisque ce sont nos impôts, la France a décidé l'an dernier, les parlementaires ont pris cette responsabilité, et je pense que maintenant il faut dire qu'ils sont responsables véritablement, les nommer pour les mettre aussi devant leur réalité. On a voté une loi qui engage 37 milliards d'euros sur les 7 prochaines années pour la dissuasion nucléaire. Alors, c'est un chiffre qui veut...
Pour la France.
Pour la France.
37 milliards d'euros.
Voilà. Alors, surtout, ce qui est important dans ce chiffre, c'est que c'est 60% de plus que la loi précédente. C'est-à-dire qu'avant, il y avait déjà eu 23 milliards qui ont été consacrés entre 2014 et 2019. Maintenant, on passe à 37 milliards entre 2019 et 2025. Donc, premier élément, on arrive toujours à trouver de l'argent pour quelque chose quand on le veut apparemment. Et donc ce qui signifie aussi pour prendre conscience, c'est un doublement annuel du budget. Grosso modo, ce budget stagnait à 3,5 milliards par an pour la dissuasion nucléaire française. Maintenant, il va passer à 6,5 milliards. Ça veut dire qu'on a véritablement une...
Rien que pour le nucléaire, on est d'accord.
Rien
pas
pour,
pas
l'arme...
pour l'ensemble de...
Pour l'arme nucléaire, pour l'arme nucléaire française. Voilà. Donc ce qui veut dire que... la France est dans une vraie volonté de renouveler son arsenal nucléaire et va consacrer des moyens véritablement exorbitants. Donc ça, c'est une première prise de conscience et de demander au gouvernement pourquoi on investit autant. Est-ce que c'est en adéquation avec les règles sur lesquelles il a signé de ne pas promouvoir de nouvelles armes, par exemple? Et puis le deuxième élément, c'est les banques, effectivement. Puisque là aussi, les banques prêtent de l'argent à des entreprises qui fabriquent des systèmes d'armes nucléaires. BNP, Société Générale, le Crédit Agricole, Crédit Mutuel prêtent de l'argent à des entreprises qui s'appellent EADS, Arianespace, Airbus, DCNS pour la construction navale, pour construire des sous-marins, pour construire des missiles, pour construire des missiles de croisière, dans lesquels seront mis des ogives nucléaires, l'arme véritablement en tant que telle. L'ogive est fabriquée précisément à Valduc, à côté de Dijon, par des militaires, des scientifiques militaires. Mais le reste est bien fabriqué par des entreprises privées ou semi-privées, puisque l'État a toujours un petit pourcentage dans ces différentes entreprises.
Et les responsables de ces banques savent ?
Bien sûr.
Dans quelle mesure il y a une intégration d'un produit nucléaire ?
Bien sûr qu'ils le savent. Et donc, ce qui est assez dingue, c'est que ces banques, finalement, font de l'argent en misant sur la possible destruction de l'humanité. C'est-à-dire que je prête de l'argent à une entreprise qui va fabriquer un sous-marin dans lequel il y aura un missile qui va porter des armes nucléaires. C'est aussi, plus j'ai de contrats, plus cette entreprise a de contrats, plus elle me demande des sous, plus je suis content en tant que banque, mais plus ça risque aussi de provoquer éventuellement une catastrophe nucléaire militaire. Donc on veut mettre aussi ces banques devant leurs responsabilités, c'est-à-dire qu'on a des banques qui ont pris conscience sur d'autres domaines. Et je vais citer côté positif, la BNP, par exemple, sur son décision d'arrêter les investissements dans le tabac, parce qu'elle a pris conscience à cause de grands renforts de communication internationale, d'action de l'ONU aussi, que le tabac était nocif pour la santé, etc. etc. On demande aussi à ces banques, finalement, d'être aussi en adéquation avec la réalité des armes nucléaires, et puis de respecter leur charte qu'elles ont eux-mêmes décidée, c'est-à-dire de protéger l'environnement. La BNP, c'est la banque d'un monde qui change, hein. Donc peut-être mettre en œuvre ce slogan.
Oui, parce qu'il y a d'autres ONG qui sont sur le terrain en ce moment.
Exactement.
Qui se battent pour le désinvestissement dans les énergies fossiles.
Exactement.
Sont très sollicitées, les banques
actuelles. Oui, parce que c'est un acteur extrêmement important. Et ce chiffre que vous avez cité de plusieurs centaines de milliards d'euros, c'est de l'argent qui sont prêtés par des banques à travers le monde pour des entreprises d'armement qui proposent et qui vont porter ces armes nucléaires. Et c'est bien aussi un des axes d'action pour créer une pression. Et le traité d'interdiction des armes nucléaires va bien évidemment interdire le financement. Et donc les banques vont avoir une problématique quand ce traité va rentrer en vigueur, c'est-à-dire de se dire, est-ce que je me mets en adéquation avec la norme juridique internationale ou est-ce que je me mets dans l'illégalité? Si je me mets dans l'illégalité, elles vont devoir répondre. Alors répondre auprès de nous, acteurs ONG, auprès de l'ONU, parce qu'on les poussera aussi devant l'ONU. Voilà. Et donc, ça permet de créer une pression, une réflexion et d'avancer, on espère bien, dans le bon sens.
Vous avez des actions donc, auprès des responsables politiques pour, en amont du traité et puis maintenant pour continuer à faire évoluer. Qui sont vos interlocuteurs, en fait ?
Nos interlocuteurs sont les parlementaires. Ce jour, j'étais à l'Assemblée nationale. Je retournerai à l'Assemblée nationale demain et au Sénat. Donc, puisque les parlementaires, c'est eux qui votent les lois. Donc, à partir du moment où ils votent une loi, ils votent le budget. Et s'ils votent le budget, ils peuvent changer le budget. Donc, ils ont la capacité de tout changer.
Donc, vous les sensibilisez, c'est du plaidoyer.
C'est du véritable plaidoyer. Oui. Voilà. Les diplomates, que ce soit donc, au Quai d'Orsay ici à Paris ou nos diplomates en charge du désarmement à Genève et à New York. Et puis, bien sûr, directement l'Élysée. Puisqu'on fait en sorte de rencontrer de façon régulière les conseillers aux affaires étrangères et aux affaires stratégiques sur ces différents points. L'objectif étant d'expliquer les positionnements, les évolutions, de savoir quels sont les plans d'action ou de comprendre qu'il n'y a pas de plan d'action, ce qui nous étonne encore toujours un peu plus, de faire avancer la problématique.
Mais comment ils vous accueillent ? Parce que quand, là, les chiffres que vous venez de donner, où en fait on voit qu'on a signé des engagements pour oui, aller vers la non-prolifération, vers le désarmement, et qu'en fait on double les budgets en termes de milliards, alors qu'on est tous à chercher, à prendre sur les petites retraites, sur un tas de... C'est vrai que pour les citoyens qui ne sont pas au fait de tout ça, ça semble un peu révoltant. Donc, mais quel accueil lorsque vous arrivez ? Est-ce qu'ils vous disent oui, et puis vous ressortez ?
Non.
Est-ce qu'il y a des vraies évolutions ?
Mais la vraie évolution, c'est la création du traité d'interdiction des armes nucléaires. Ça a été un véritable combat pour obtenir
mais
ce traité.
Mais je parlais de la France,
mais
des responsables politiques français.
Il faut comprendre que ce n'est pas un sujet national, c'est un sujet international. C'est une problématique mondiale. C'est un combat qui ne se mène que si on le gagne sur le plan mondial. Et c'est pour ça que ICAN est une campagne mondiale, qu'on est réparti sur l'ensemble de la planète à travailler aussi bien avec des parlementaires israéliens qu'iraniens, qu'en Chine, qui essaient de faire pression aussi ou d'être présents en Russie, aux États-Unis, etc. Et rarement ils nous disent les diplomates, on a des bien meilleurs échanges que par le passé avec eux, on doit leur reconnaître, tant mieux. Sans doute aussi parce que notre expertise est devenue beaucoup plus importante que par le passé. Ce que je peux vous dire, c'est que si on n'était pas là, la situation serait bien pire. Et c'est déjà en soi un point sur lequel on a gagné. Le deuxième point, c'est que même s'ils nous disent non, ils ont conscience de cette problématique. Et je ne suis pas certain que tout, c'est une facilité à se regarder le matin dans le miroir.
Et un autre point qui m'étonne, c'est qu'en fait, la plupart des pays que vous avez évoqués qui travaillent à développer, enfin qui n'ont pas officiellement l'arme nucléaire ou qui l'ont, mais qu'on ne cite pas, comme la France évidemment, puisqu'on y est, les autres pays que vous avez cités, je pensais à l'Inde. Où en est la position de l'Inde ? Parce que l'Inde, elle n'est pas présentée comme une menace comme les autres.
Et non, l'Inde n'est pas présentée comme une menace comme les autres. Peut-être parce que déjà en France, on vend beaucoup d'armes à l'Inde, donc on ne va pas présenter un État vers qui on vend beaucoup d'armes comme étant une potentielle menace. En plus, on vend des systèmes d'armes sur lesquels les Indiens pourraient mettre des armes nucléaires. Typiquement, le Rafale va permettre à l'Inde d'augmenter sa capacité nucléaire aérienne, sachant que le principal ennemi indien, c'est la Chine, c'est vrai, mais le principal rival, c'est le Pakistan, principalement dû aux problématiques frontalières sur l'Himalaya. Et donc, ces chasseurs, ces rafales seraient à destination, si on peut utiliser ce mot, du Pakistan. L'Inde est toujours citée comme étant la plus grande démocratie au monde.
C'est un petit peu controversé en ce moment.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est un peu controversé en ce moment. C'est vrai que l'Inde n'apparaît jamais comme étant un acteur nucléaire mondial, contrairement au Pakistan, mais c'est aussi un problème justement de langage. Je pense qu'il y a des mots qu'il faut totalement éliminer et qu'à travers nos prises de parole, c'est le fait de dire puissance. En fait, le mot puissance est vu comme étant quelque chose souvent de positif. Non, ce qui est positif, c'est le désarmement, par exemple. Et on doit avancer aussi dans ces éléments de langage pour montrer que ces États qui possèdent ces armes nucléaires possèdent des armes de destruction massive et engagent notre sécurité à chaque instant.
Est-ce que vous faites aussi par rapport à la population, à sensibiliser ?
On organise. Au mois de novembre, va arriver à Marseille une ONG japonaise avec un bateau de croisière qui s'appelle le Peace Boat, le bateau de la paix. C'est un bateau qui fait le tour du monde. À l'intérieur, il y a des passagers japonais et qui ont un programme de promotion sur l'histoire des Ibakusha. Et il y aura à Marseille un Ibakusha.
Et donc,
des personnes qui sont survivantes
des bombardements.
Et on va avoir un vrai travail sur Marseille, puis sur Monaco, par exemple, pour promouvoir cette problématique de l'arme nucléaire. C'est un bateau qui vient assez fréquemment en France. Il était il y a l'an dernier au Havre, on avait fait quelque chose, il y a 2 ans à Bordeaux. Donc voilà, on fait un véritable travail. Et puis on fait aussi un véritable travail auprès des universités françaises. On fait énormément de conférences chaque année et on est toujours ouvert à se déplacer à travers la France pour faire des conférences auprès des étudiants. Les étudiants sont très demandeurs puisque eux aussi, leur programme se concentre uniquement sur la problématique de la dissuasion et non pas sur la problématique du désarmement nucléaire. Et donc là, on a un vrai pan de l'histoire.
Le programme de qui ?
Le programme des jeunes universitaires qui sont en droit, en relations internationales, en géopolitique, en sciences politiques, dans toute cette frange-là, en histoire. Leurs professeurs ne leur parlent que de la dissuasion, mais jamais de la question du désarmement. Et il y a tout un pan, en fait, qui leur échappe et dont ils n'ont pas ou peu conscience. Et on essaye, dans la mesure de nos possibles, de venir et d'intervenir et d'expliquer ces questions-là. Donc, oui, on a un véritable travail qui est réalisé à ces différents niveaux, en plus de la source d'information qu'on peut trouver via nos newsletters, par exemple, ou les différentes vidéos qu'on peut faire sur nos réseaux sociaux.
Donc, je vous laisse rappeler l'URL de votre site.
ICANFRANCE.org.
Est-ce que vous croyez vraiment, vous, à titre personnel, qu'un jour, les armes nucléaires ou équivalentes en termes de capacité de destruction auront disparu de la planète Terre ?
Bien évidemment. Vous savez, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que ce qui est bien avec l'arme nucléaire, c'est qu'on connaît la fin de l'histoire. On connaît la fin de l'histoire. Soit on arrive
on
à les éliminer.
Aussi avec le changement climatique et puis
oui,
on voit que ça a
soit
du mal à
soit on arrive
à
les
aussi.
Éliminer et on arrivera à vivre dans un état mondial beaucoup plus sécuritaire. Soit en fait, il y a une détonation nucléaire qui se déroule quelque part à travers le monde et on va rentrer dans un état de société qui est totalement différent que ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, devant nous, on peut créer l'histoire. À nous de la créer pour que demain, nos familles, nos enfants, nos futures générations puissent vivre dans un monde qui soit libéré de cette menace.
Voilà, et pour ça, il faut une mobilisation citoyenne de plus en plus forte aussi.
Exactement.
Donc, on invite tous les gens qui se seront intéressés à cette question et à ce podcast à venir sur votre site, vous rejoindre dans un groupe local éventuellement.
Alors ils peuvent nous rejoindre, en tout cas ils peuvent nous rejoindre déjà tout simplement en s'abonnant à la newsletter, en nous envoyant par exemple des propositions pour venir intervenir, en devenant adhérents, en nous sollicitant pour des questions et des réponses sur lesquelles on aura toujours grand plaisir à répondre. Voilà, mais on a besoin des citoyens, on peut leur donner quelques petits tuyaux tout simples pour envoyer des questions auprès de leurs parlementaires. Vous savez, souvent les gens pensent que ce n'est pas efficace d'envoyer un petit courriel à son parlementaire. Mais si un parlementaire commence à recevoir ne serait-ce que 10 ou 15 questions de temps à autre sur le même sujet, celui-ci va se sentir obligé de les utiliser et de poser des questions. Donc voilà comment les gens peuvent se mobiliser.
Merci beaucoup Jean-Marie Collin.
Merci.
Bravo pour tout votre travail et tous ces efforts, cet investissement depuis tant d'années. Et on nous souhaite, je m'inclus dedans, on s'inclut dedans, la concrétisation de ce traité avec la signature de tous les pays de
Exactement.
La planète. Hein, c'est ce qu'on peut espérer
voilà.
Maintenant. Très bien, bonne continuation. Merci beaucoup.
Merci.
Chers auditeurs, si vous avez apprécié cet entretien, merci de mettre 5 étoiles au podcast de So Sweet Planet sur iTunes. C'est très important pour qu'il ait plus de visibilité. N'oubliez pas de vous abonner soit à la newsletter sur sosweetplanet.com ou sur iTunes au podcast, ou les deux, pour être informé des prochains podcasts mis en ligne. À bientôt.